bienvenue dans I Like to Ride My Bike, le podcast qui parle de vélo sur la métropole de Lille et aux alentours et dans la région. Pour ce deuxième épisode de la saison 2, nous sommes avec Maxence, qui se présentera un petit peu plus tard sur son parcours, etc. En bref, je peux dire qu'il est ostéopathe, qui fait du vélo et qui connaît un petit peu les douleurs du cycliste, etc. Avant d'aborder les thèmes de cet épisode, je voudrais remercier Radio Bois Blanc qui nous prête le matériel pour pouvoir enregistrer ce podcast. Je vous invite à les suivre sur leur page Instagram qu'on mettra en description. Voilà, donc du coup, au cours de ce podcast, on va aborder plusieurs sujets. Alors d'abord, on va parler, toi Maxence, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à être ostéopathe, etc. Et puis ensuite, on va parler un petit peu des différents maux des cyclistes, les plus communes, comment les traiter, est-ce qu'on a des conseils, etc. Et puis enfin, on parlera de l'analyse posturale, qui est quelque chose que tu fais ici dans ton cabinet. Voilà, on parlera de en quoi ça consiste, etc. Je suis bien entendu accompagné de Jérém. Salut Jérém.
Salut.
Et donc, alors, pour mettre un petit peu le contexte, on est dans ton cabinet, Maxence.
Ouais, exactement.
Il y a un petit côté psy, tu vois. Sauf que c'est nous, c'est lui le psy. On est de l'autre côté du bureau. Et donc, du coup, voilà, entrons dans le vif du sujet, Maxence. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous dire comment tu en es arrivé à devenir ostéopathe à Lille?
Oui, bien sûr. Déjà, bonjour Kevin, bonjour Jérémy. Merci de m'inviter dans votre podcast.
Avec plaisir.
Donc, je m'appelle Maxence, j'ai 35 ans. Je suis papa d'une petite fille qui a un an depuis peu. Et je suis donc, comme tu as dit, ostéopathe depuis maintenant 9 ans. Donc voilà, je suis installé à Lille depuis mon diplôme. Comme tu l'as dit, je suis aussi sportif. Je fais du vélo depuis peu, on va dire. J'ai découvert ça assez sur le tard, il y a 4-5 ans maintenant. Je viens du sport co à la base.
Mais ça roule bien vite, l'Hilard de l'eau, quand même, pour un cycliste débutant.
Ça va, j'ai une base cardio qui est pas trop mauvaise.
Je peux en témoigner.
Je me débrouille. C'est pas mon sport de prédilection à la base, mais on fait ce qu'on peut quand on peut s'entraîner. Ouais. Avec des périodes où c'est plus compliqué. Et donc voilà, ostéo. Et comme tu as dit, je fais aussi des études posturales. Je ne le sépare pas tellement de ma profession parce que pour moi, c'est commun avec l'ostéopathie dans le sens où c'est une étude de la posture. Là, c'est spécifique de l'individu sur son vélo. Donc ça fait partie pour moi maintenant intégrante, on va dire, de mon métier.
D'accord.
Donc voilà, je vois des patients sur des études posturales toutes les semaines. Le principal de mon travail, ça reste l'ostéopathie quand même. Mais c'est une facette de mon boulot maintenant.
Avec une patientèle importante du coup de cycliste ou de sportif
En dehors des études posturales, j'ai une patientèle hyper variée.
Ouais.
Ça c'est cool parce que tu vois, tu peux voir un peu tout type de patients. Je suis quand même situé, tu vois, enfin, dans le centre-ville de Lille. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça, mais du coup, j'ai une patientèle super jeune.
Ok.
Enfin, super jeune, tu vois, ça veut dire la moyenne d'âge, ça doit être 30-35 ans, je pense.
Ok, c'est bien, tu m'inclus dans tes patients jeunes, du coup, c'est bien.
Je fais exprès. Non, mais vraiment, tu vois, donc ça, pour ça, c'est cool pour moi parce que c'est une petite préférence que j'ai aussi, d'avoir des patients jeunes et actifs, avec des patients donc, qui sont dans la vie active et qui font... pour la plupart du sport en dehors, ou activité physique régulière, on va dire, principalement la course à pied ou du vélo. C'est un peu, je pense, les deux sports qui, ces dernières années, montent bien en flèche avec le gravel et le trail, tu vois, notamment sur le course à pied trail et vélo avec le gravel qui s'est beaucoup développé aussi. Donc ça fait que je m'ennuie pas. Comme ça, c'est cool, je vois un peu de tout au cabinet. Je disais des sportifs, mais pas que, dans le sens où je vais voir des bébés de quelques jours et quelques personnes âgées aussi.
Ok.
Voilà. Globalement, c'est ça, ma petite présentation.
Et alors, du coup, c'est... Enfin, pourquoi avoir choisi d'être ostéopathe? Est-ce que c'est via le sport ou... Enfin, le sport, les corps, les muscles, les os, etc., qui t'ont amené par là, ou alors c'est complètement un autre chemin?
Ouais, c'est une bonne question. Tu vois, c'est une question qu'on poserait finalement régulièrement à une personne. Pourquoi, enfin, mm-hmm. comment t'as été amené à faire ce métier-là? Et je pense que c'est exactement ce que tu dis. Moi, en tant que sportif de base, je viens du sport co, tu vois, je viens du hockey sur gazon. Je sais pas si tu connais, tu vois, c'est un sport assez confidentiel.
Pas tellement, ouais.
Sport régional.
Voilà, c'est fort développé quand même dans les Hauts-de-France. On a quand même un peu partout, dans l'Île-de-France beaucoup aussi. C'est un peu moins pratiqué, t'as un peu moins de clubs peut-être dans le sud. Mais ouais, c'est un sport amateur en France, c'est pas très connu. Et moi, je viens de là, j'aurais pu venir d'un autre sport, mais effectivement, je pense que c'est cet attrait pour le sport et du coup, cette connaissance du corps humain, de la douleur, qui m'a fait m'orienter plutôt vers le domaine médical. À l'époque, comme j'en faisais beaucoup, je ne me voyais pas partir, tu vois, en médecine après le bac et tout arrêter pour faire que bosser. Et le métier de kiné me plaisait bien parce qu'il y avait ce côté vachement prendre le temps et passer du temps avec le patient, qui est peut-être parfois moins le cas sur des professions médicales plus médicales, pour le coup, on va dire. Donc, je me suis orienté vers kiné. Finalement, j'ai bifurqué vers ostéo après avoir raté le concours. Mm-hmm. Bah, voilà.
C'est bien,
concours c'est assez, ouais, c'est tu vois, c'est un concours assez difficile. Enfin, comme tous les concours, il y a beaucoup de candidats, peu de places. J'aurais peut-être pu un peu plus bosser, faire moins de sport. Et voilà, mais ça s'est fait comme ça. Je suis rentré finalement en école d'ostéo. Et finalement, je suis très content de mon quotidien, de ce que je fais tous les jours avec mes patients. Donc... J'ai pas de regrets là-dessus. J'aurais été très heureux kiné aussi, je pense. Mais voilà, je suis ostéo. Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers ça, effectivement, par le sport et l'intérêt pour le corps humain depuis le sport, on va dire. Voilà.
Ok. Et alors, justement, pour rester sur le corps humain et entrer un petit peu dans le thème de ce podcast... Quand tu vois des cyclistes, généralement, enfin, quels sont les mots assez communs qu'on retrouve chez les cyclistes? Alors, j'imagine que ça dépend aussi, bien sûr, de comment dire, de l'historique de chacun, etc. Tout ne vient pas forcément que du vélo. Mais qu'est-ce qui peut nous arriver à vélo? Et surtout, est-ce qu'on peut, y remédier ou, même mieux, pallier à ces problèmes-là directement avant de pédaler?
C'est intéressant comme question parce que, en fait, tu vois, la question, c'est quelles seraient les blessures ou les douleurs les plus communes. Et en fait, dans le plus commun, c'est déjà hyper large. C'est-à-dire que tu peux avoir autant de blessures au niveau des genoux, des lombaires, des cervicales. Tu vois, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une prévalence qui ressorte parce que, comme chaque individu est différent, chaque personne va se positionner de façon différente sur son vélo. Chaque personne va avoir une pratique différente avec des intentions et des objectifs différents. Et du coup, ça va ressortir à différents endroits chez tel ou tel individu. Tu vois. Si on prend par région, on va dire, ça peut être, si on commence par le bas, des douleurs au niveau des pieds, souvent type engourdissement, principalement... tu vois, comme des sensations de brûlure quand tu sors d'une sortie longue, des pieds engourdis, endormis. C'est vrai aussi, tu vois, des fois, quand tu le sens pour les triathlètes qui ont des mauvais réglages, je pense c'est par rapport au cale.
Ok.
Qui vont descendre du vélo et les premières foulées, premiers kilomètres, tu sens pas tes pieds, t'as pédalé pendant, en fonction de ta distance, autant de temps correspondant. Et tu sors de là, t'as des engourdissements. C'est pas anormal et ça peut être corrigé.
Ouais, ok.
Après, on y reviendra un peu après parce que c'est assez large. Tu as des blessures sur le vélo, mais qui peut être aussi en lien avec des troubles hors vélo.
Oui, c'est ça que tu avais avant ou juste c'est ta condition.
Voilà. Donc, ça, c'est aussi une partie de l'analyse que tu dois faire sur une étude posturale ou dans un bilan ostéo ou kiné-ostéo. C'est de faire le point, est-ce que cette douleur, elle est due exclusivement à la pratique du vélo et comment. Le patient ou le cycliste est positionné sur son vélo, ou est-ce que le vélo, ça met en avant un trouble qui est déjà existant, qui est accentué parce que tu sollicites plus forcément, plus intensément tes muscles, ton système cardiovasculaire et tes, ta biomécanique. D'accord. Bref, si on continue, voilà, pour les pieds, au niveau des genoux, c'est hyper commun aussi. Tu peux avoir un peu toutes les douleurs relatives au sport, c'est-à-dire syndrome fémoro-patellaire, essuie-glace, tendinopathie, des choses comme ça. Ça, pareil, est-ce que c'est présent déjà en dehors, sur de la course à pied, sur un autre sport? Est-ce que c'est exclusivement quand il fait du vélo? Est-ce que c'est bilatéral? Est-ce que c'est qu'une jambe, etc. Est-ce que c'est le cas sur le home trainer? Est-ce que c'est le cas sur le dehors, enfin, tu vois, en sortie classique? Au niveau des genoux, au niveau des lombaires, hyper commun aussi, lombalgie. Ça, quand même, la plupart du temps, ça ressort. C'est quand même assez commun que ce soit dû à vraiment un défaut de positionnement.
Le réglage du vélo, du coup.
Ouais, le réglage du vélo, en termes de hauteur de selle ou de profondeur de cintre. Tu vois, le reach, le fait d'être trop long, trop court, enfin trop long, plus souvent trop long que trop court. Et enfin, je dirais, cervical et vraiment base du cou, dorsale haute cervicale. Où là, pareil, c'est surtout sur les sorties longues, quand tu es un peu trop loin de ton cintre et le fait de redresser tout le temps la tête en fin de sortie, ça commence vraiment à tirer. Alors, sur les sorties très très longues, il y a des douleurs que tu peux pas toujours non plus complètement
c'est
régler.
Normal, quoi.
Voilà. Alors, tu vois, j'aime pas dire qu'une douleur est normale parce que c'est.
Non,
c'est
mais
pas
sur
vraiment le cas.
Un Paris-Brest-Paris, des fois, à la fin, t'as mal au
voilà,
cou.
Des
quoi.
Fois, c'est plus compréhensible que dans certaines situations que d'autres, effectivement. Mais voilà, c'est ce qui va ressortir. Après, tu peux aussi avoir des petites douleurs au niveau des poignets, des coudes, des épaules.
Ouais.
Pareil, c'est en fonction de comment tu te positionnes sur ton vélo.
Parce qu'il y avait quand même cette idée que le vélo pouvait quand même protéger le sportif parce qu'il y a moins enfin il y a pas d'impact comme en course à pied ou des choses comme ça, c'est du coup pas forcément si
évident que ça. Non,
si évident que ça, ouais, ça protège pas forcément
alors tant que ça protège, les articulations, si c'est bien réglé, déjà ça protège. Faut pas oublier que c'est quand même, tu vois, un intermédiaire que t'as pas en course à pied. En course à pied, alors t'as la chaussure qui peut avoir un impact, mais t'as que la chaussure. Là, si tu prends tous les réglages possibles sur le vélo un à un, en fonction de, donc si on reprend depuis le début, hein, tu vois, on parlait des pieds, si tu as une chaussure qui est trop étroite, ça peut jouer sur des engourdissements. Si tu as mal réglé tes cales, ça peut jouer sur ta position de genou et sur la biomécanique du genou, donc entraîner des douleurs. Si ta selle, elle est trop haute, trop en avant, trop en arrière, ça peut causer des lombalgies ou des douleurs de genou aussi. Tu vois, donc finalement, ta chaussure, cale, selle, potence avec longueur de cintre, largeur du cintre, ça se fait quand même pas mal d'intermédiaires entre... Bah ton corps et le fonctionnement de celui-ci. Quoi. Alors qu'en course à pied, finalement, entre guillemets, t'as que la chaussure qui peut avoir un impact, mais pas plus que ça. Après, tu parlais du fait, du coup, d'avoir des impacts au sol, je pense que tu voulais dire. Ce qui ressort quand même sur les dernières années et des études plus récentes, c'est que la course à pied n'est pas négative, n'est pas néfaste pour le coureur. Pour le dos du coureur.
Okay.
C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent qu'un coureur va avoir un dos parfois de meilleure qualité qu'un non-coureur. Contrairement, tu vois, c'est un peu contre-intuitif, on a vraiment cette image de « ouais, je fais des impacts au sol, machin, ça va me causer des douleurs de dos, pas tant que ça. » En fait, le corps, pour bien fonctionner, il a besoin d'être stimulé. Tu vois, c'est de la stimulation qui fait que tu crées de l'os, que tu lubrifies bien tes articulations et que ça fonctionne bien. D'accord ? Après, il y a sûrement une notion d'excès qui fait que, voilà, c'est comme pour tous les extrêmes, il faut toujours faire un peu s'en méfier. Mais globalement, ce qui ressort, c'est que la course à pied n'est pas tellement néfaste pour ça. Et cette notion d'impact, elle est un peu à mettre de côté.
Ok, d'accord.
Mais voilà, par rapport au réglage, comme il y a beaucoup d'intermédiaires, comme je viens de le dire, c'est quand même à prendre en compte. Quoi. Surtout pour ça.
Ok. Finalement, on va faire un podcast sur la piscine.
Moins aussi. Swimming pool. ça me fait penser à un truc. On parle aussi dans ce podcast de voyage à vélo, etc. Où là, du coup, on peut être amené à pas forcément rouler très vite, etc. Mais par contre, rouler longtemps. Donc, J'imagine que avoir un vélo, là pour le coup, hyper bien à sa taille, réglé, etc., c'est ultra important. Et néanmoins, comme on disait, bah, y a forcément un moment où bah, c'est plutôt la durée qui fait que on a des douleurs, etc. On peut quand même remédier un peu à ça quand on se prépare à des longues, longues sorties.
Ouais, tu vois, tu viens de donner deux éléments importants, tu vois. Donc, comme j'ai dit juste avant, j'enlèverais quand même le terme « forcément ». Tu vois, on n'a pas forcément des douleurs.
Oui,
et il faut plutôt partir du fait qu'une douleur, ce n'est pas normal. Tu vois, c'est un peu la phrase « au début, c'était « tu fais du vélo, tu as mal aux fesses, c'est normal ». Non, déjà, ça, ce n'est pas normal. Tu fais du vélo longtemps, c'est normal que tu aies mal au cou. Non,
oui.
C'est pas normal.
Ouais,
on
n'a
pas forcément mal au cou. Et tu l'as dit dans ta phrase, il y a une notion de préparation qui peut être importante. Et la préparation, c'est aussi bien le bonhomme, je dis, enfin, tu vois, le cycliste, que ce soit l'homme ou la femme, et son matériel. Donc effectivement, quelqu'un qui est bien posé sur son vélo, qui est bien réglé, qui a fait toute une étude posturale, qui est nickel, mais qui n'en fait jamais, et qui du jour au lendemain décide de traverser la France.
Oui,
ça risque d'avoir...
probabilité voilà, d'apparition de blessure qui est quand même assez importante. À l'inverse, quelqu'un qui est hyper sportif, qui fait du sport tous les jours, qui a un bon cardio, qui est bien renforcé, mais qui ne fait jamais de vélo, qui loue un vélo la veille de traverser la France.
Oui, qui passe sa taille, machin.
Voilà, la probabilité augmente quand même. Mais du coup, voilà, tu réunis les deux, quelqu'un de bien préparé avec un bon fitting... la probabilité de se blesser, elle diminue quand même fortement.
Ouais, c'est ça.
Blessure ou douleur, tu vois.
Un truc qu'on disait souvent et que les gens qui faisaient du voyage à vélo vraiment recommandaient déjà, c'était pas de sac à dos. Tout sur des sacoches sur le vélo, etc.
Ouais.
Ça paraît limite logique, en fait.
Ouais, ça, je pense que tu le sens.
Mais c'est ça, tu le sens aussi.
Enfin, tu vois, moi, mon vélo taf, c'est un ancien vélo route. Quand je prends mon sac à dos avec mon ordinateur, mes affaires... Je suis content d'avoir un petit trajet, tu vois.
Oui, c'est ça.
Donc, ouais, tu ne voudrais pas 20 bornes avec
Non.
Et un sac à dos.
Pas, non.
Non, et j'ai acheté un vélo hollandais pour le vélo.
Ou alors tu fais ton étude posturale avec ton sac à dos.
Oui.
Mais même ça, du coup, tu changes tout le positionnement parce qu'on va te mettre plus droit, des choses comme ça.
Ouais, il faut vraiment aimer son travail, quoi.
Ouais. Pour investir.
Pour emmener son ordi en voyage à vélo et tout, tu vois. Je pense que la plupart des gens diront « Non, justement, je fais exprès de le laisser chez moi, je ne veux surtout pas l'envie. »
Non, j'ai oublié.
C'est ça. Et alors, je voudrais revenir aussi sur un truc. On parlait de home trainer.
Ouais.
Pour le coup, là, j'imagine que la rigidité fait aussi que... Enfin, il y a sans doute une différence entre un vélo qu'on utilise pour du home trainer et un vélo qu'on utilise sur la route. Alors, pas forcément dans le réglage, mais dans les douleurs qui peuvent apparaître.
Ouais, alors non, tu peux utiliser le même sans aucun souci. Il faut juste que tu aies en tête quand même que c'est deux pratiques quand même assez différentes. Oui. Pourquoi ? Alors, tu parlais de rigidité, c'est pas tellement le terme, mais... sur le home trainer, tu n'auras pas l'aspect, par exemple, amortissement des défauts de la route.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas de route. Voilà. Donc ça, c'est plutôt positif parce que tu n'es pas tout le temps en train de...
C'est un truc
que tu... Voilà, tu es moins secoué, c'est un truc que tu ne ressens pas. Mais sur la route, tous les petits défauts, bah, tu les encaisses dans tes bras. C'est pour ça que c'est important d'être bien positionné. Parce que si tu as les bras tendus, là, tu vas facilement avoir des douleurs au niveau des épaules, coups de poignet ou base du cou. Ça, sur le home trainer, tu l'as pas. Donc, tu vois, c'est une différence. Tu vois, les différences, elles se font dans les deux sens. Et par contre, là où le home trainer, faut pas s'en méfier, tu peux faire des longues sessions de home trainer, mais tu fais quand même des sessions souvent plus courtes, parce que home trainer, tu es posé, tu pédales. Tu vois, tu vas pas te replacer, tu vas pas te lever un peu, tu vas pas faire une relance. Enfin, si tu vas faire des relances, si tu fais ton fractionné, mais la plupart du temps, tu restes assis, les fesses sur ta selle et les pieds sur les pédales et t'appuies. Là où je te dis sur
t'as moins sortie, de roue libre, t'as moins de...
De phase de relâche, de choses comme ça.
Voilà, t'as pas à attendre Kevin. Hey, Kevin, rattrape-moi.
Qui a oublié en plus d'amener à bouffer, donc faut lui prêter des trucs et tout parce qu'il est en hypo, chiant.
Mais tu vois, donc ça c'est un élément quand même important, c'est pour ça que souvent une séance de home trainer, tu la fais plus courte.
Ouais.
Qu'une sortie, tu vois, l'équivalence Alors, je sais pas si on peut faire des tableaux d'équivalence, mais tu peux faire une séance de 1 heure de home trainer à la place de peut-être 2 heures de sortie, tu vois.
Ouais. Bah déjà, quand tu sors, faut déjà sortir de l'île, donc ça te fait une petite demi-heure.
C'est ça.
Tu y es, quoi.
Ouais. Et tu vois, tu parles de ça, sortir de l'île, c'est pédaler, m'arrêter, me replacer, me mettre debout, relancer. Donc tu vois, t'as, en fonction de là où tu habites, tu as déjà 20 minutes à l'aller, 20 minutes au retour.
Enfin, c'est plus vraiment du vélo où tu sacques dedans, comme on dit, et puis ouais, carrément.
Oui, c'est pour ça que sur les sorties home trainer, moi j'en fais pas personnellement, enfin j'en ai pas chez moi, mais quand tu vois les gens sur Strava pour le coup qui en font, c'est rarement plus de 45 minutes, 1 heure.
Ouais, alors ça va dépendre des profils et de ce que tu prépares. Il y a des gens qui font des grosses sorties quand même sur home trainer, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est aussi l'aspect gain de temps justement qui est recherché et praticité. Ou météo dégueulasse.
Mais alors, moi je regardais un peu là sur les ce que je me disais, enfin on en parlait tout à l'heure, avec le mauvais temps et tout, c'est pas forcément l'envie de faire du vélo n'est pas forcément là. Est-ce que toi tu fais du home trainer ou est-ce que ça t'intéresse, enfin je sais pas, moi je me dis que ça peut être pas mal pour caser un peu de vélo à des horaires qui sont pas forcément adaptés quand il fait nuit et tout ça.
En ce moment pas trop, mais c'est quelque chose qui me dérange pas et que j'aime bien, tu vois, quand pas que j'aime bien, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, tu vois, la praticité, le gain de temps et l'organisation, tu vois, même des fois hop, le midi, l'home trainer, forcément je fais des études posturales ici, moi ça m'arrive de prendre mes affaires et entre les patients une bonne pause quand même
10 minutes,
mais je peux me faire une session cabinet. En ce moment c'est pas le cas, je suis un peu moins de temps avec le boulot et la vie perso, mais c'est un truc qui me...
On rappelle le bébé de 1 an qui peut expliquer des choses sans doute.
Effectivement.
Et alors, j'y connais pas grand-chose en home trainer. Ça fait du bruit ou pas?
Ça dépend de ton home trainer.
Ouais. Maintenant, mais tu peux en avoir un silencieux pour faire du vélo à 6h du mat si tu te chauffes.
Ouais.
Ok.
Plus ou moins silencieux. Mais... il est juste à côté de toi, le home trainer. Là, j'ai changé, j'en ai plusieurs. Hein. Tu vois, j'ai des rouleaux. Là, j'ai un transmission directe. J'ai un autre transmission directe.
Et ça, c'est plutôt silencieux.
Celui-là, il est plutôt silencieux. Ouais.
Okay.
T'en as des plus ou moins gros, plus ou moins silencieux en fonction de la technologie. Après, si tu ne connais rien, et de la capacité en watts.
Que ça peut reproduire. Pour reproduire aussi les pentes, etc.
La résistance.
Moi, ma solution, la météo pourrie, ça a été le gravel pour le coup. J'ai préféré prendre le problème à bras le corps en me disant perdu, je vais rouler dans la boue.
C'est
bien.
Ça solutionne pas le temps par contre. Le temps,
oui,
sur le vélo.
Ça règle pas le problème. Même si. Tu fais quand même des distances moins longues, donc peut-être des sorties un peu plus courtes. Mais
tu fais des distances moins longues, mais est-ce que c'est des sorties plus courtes?
Ouais, pas forcément. Non. C'est ce que je dis à ma copine.
T'as une moyenne un peu plus basse.
Je dis non, mais t'inquiète, je pars pour 40 km, mais vu que je roule pas vite, bah du coup, c'est aussi long que si je faisais 80. Donc en fait, c'est pas moi que j'arnaque, c'est...
C'est souvent le cas.
Hein. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison, ça marche pas forcément. Mais ça solutionne le problème de la pluie et tout.
Ouais.
Oui.
Et de laver le vélo, on en parlait, il faut quand même le laver.
Ouais. Mm. Et en appartement, c'est...
Compliqué.
Ouais. J'anticipe Marocco, mais salut au café de Strat et à son, bac de douche, sa douche que je pourris régulièrement avec la boue sur mon graveur.
Mais pourquoi tu ne fais pas chez toi? Je ne comprends pas.
Dans ma douche, à la verticale, le vélo, je ne sais pas. Je suis pas sûr.
T'as déjà fait?
Non, je l'ai fait sur le trottoir devant mon immeuble.
Ouais.
Et là, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de terre sur mon vélo. Et la terre est encore là. Et c'était il y a 3 mois. Et, donc, il pleut à Lille, mais il reste encore un peu de terre. À chaque fois que je sors, je me dis, tiens, mais c'est toujours pas parti, ça. C'est...
Ah ouais.
Donc, ouais.
Ouais, ça, c'est un peu la galère. J'avais fait une fois dans la baignoire.
Ouais.
Elle est devenue noire, tu sais, avec la graisse et tout. Après, j'ai passé un temps fou à la baignoire.
Mais c'est ça. Entre le temps que tu laves ton vélo et le temps que tu laves ta baignoire, c'est le temps de ta sortie. Donc,
et toi, t'es toujours pas lavé. Tu
vois. En plus, non, mais c'est vrai que en appart,
c'est pas facile. Ouais. Mais je sais pas si dans l'île, il me semble qu'il y a certains endroits où ils ont mis ce qu'il faut pour laver les vélos, non?
En extérieur, tu veux dire?
Ouais. Ils ont, enfin, pour réparer, ça c'est sûr.
Ouais, pour réparer à la Citadelle, il y a un point de réparation.
Ouais, bah, il y en a un peu partout sur la métropole, blablabla, avec leurs plans, je sais pas quoi. Il me semble qu'il y a un endroit pour laver le vélo, il me semble. Enfin, je vais regarder.
Bon, régulièrement, après, le dimanche, tu vois les cyclistes s'arrêter au car wash.
Oui, ouais. C'est ça, au pire, ouais. Ouais. C'est clair. C'est clair.
Mais bon, ouais. Il y a celui, il y a le Total Energy, mais... Je préfère quand même donner de l'argent à deux strates.
Ouais, c'est bien ce qu'ils ont fait.
Ouais, non, c'est cool comme truc. C'est vraiment bien. Donc, moi, je préfère aller là-bas. Mais bon. Après, ils ont une équipe de vélo, Total. Alors, peut-être qu'on soutient le vélo aussi.
Non. moi, ça me fait penser à un truc, je ne l'avais pas noté, mais en parlant, ça, forcément. Mot que tu peux avoir sur un vélo hyper commun, c'est mal au cul.
Ouais,
clairement.
Je ne l'ai pas cité, mal au cul ou au niveau des parties génitales.
Ouais, c'est ça.
C'est et commun alors, et c'est moins souvent cité parce qu'un peu tabou parfois.
T'as vu la banque de sel?
Ah oui, il y a la banque de sel. Alors, justement, je crois que c'est aux mains dans le guidon Gambetta. Je ne sais pas s'ils le font encore parce que je ne vais plus à Gambetta moi, mais ils avaient une bibliothèque de sel où tu pouvais tester les sels, etc. Donc, choix de la sel, hyper important.
Ouais.
Alors, bon, là, on est entre hommes, mais j'imagine qu'il y a des sels qui sont plus adaptés pour les hommes et pour les femmes.
Mathilde en parlait
sans doute,
la dernière fois.
Quoi?
Mathilde en parlait
la dernière fois. Ouais, Mathilde en parlait la dernière fois. Alors, aussi un truc, apparemment, c'est pas de sous-vêtements sous son cycliste.
Apparemment.
Ça, apparemment. Moi, je suis pas forcément de cycliste, alors du coup, je sais pas
non,
trop.
Ça,
je
suis
pas
poil
non plus, mais éviter les frottements, etc., les irritations.
Tu mets pas de...
Ouais.
Que ton cycliste.
Et aussi, enfin, pas hésiter à utiliser un peu de crème s'il y a besoin.
Tu peux, ouais.
Tout simplement.
Si, c'est commun.
Tu fais quoi, du coup, avec la banque de sel, là? Tu proposes de tester des sels
Ouais, donc, tu vois, dans l'étude, ce qui compte avant le type de sel, c'est vraiment le réglage, déjà. Tu vois, parce que si ça se trouve, tu as des personnes qui vont venir et ils vont te dire j'ai essayé je sais pas combien de sel, il n'y a rien qui me va. Tu le mets sur son vélo, ça va pas.
Ouais.
D'accord ? Donc il faut déjà être bien positionné pour être sûr de bien s'asseoir au bon endroit sur la selle et de bien transmettre ta force sur la pédale. C'est ce que tu veux. Une fois que tu es bien placé et bien positionné, que la selle elle est à bonne hauteur avec le bon recul. S'il y a toujours des douleurs, effectivement, il faut que la selle elle corresponde au bassin. Ça, c'est commun de devoir changer de selle. Pourquoi ? Parce que la selle, c'est un truc... tu vois, un vélo, il est vendu avec la même selle pour tout le monde, alors que tout le monde a un bassin différent. Je prends souvent comme exemple, c'est comme si j'ai deux personnes en face de moi qui portent des lunettes. C'est comme, je vous disais, vous avez besoin de lunettes, je vous donne la même paire de lunettes pour tous les deux. Il va y avoir un problème.
Ouais.
Donc, là, c'est un peu le même principe, c'est qu'on donne à une personne un vélo avec une selle, point barre. D'accord ? Ce qui est normal, hein, tu ne peux pas, quand tu vends un vélo, sortir une selle pour chacun sans savoir vraiment trop ce qui correspond. Donc ici, au cabinet, on a plusieurs selles. Et pendant l'étude, effectivement, je l'ai fait essayer. Donc, l'étude, ça se passe sur un trainer. Et je les laisse en prêt, même aussi après l'étude, sur une période qu'on fixe ensemble, contre un chèque de caution.
Ok.
Et pour tester la selle.
Ok.
Donc,
tu les vends du coup après ou c'est...
Je les vends, il y en a qui ne sont pas à moi,
ouais.
Qui sont directement à des magasins. Donc le chèque de caution, c'est même directement pour le magasin. En tout cas, tu vois, moi je ne fais pas de bénéfice pour les selles, déjà parce que je n'ai pas le droit.
Ok.
Je ne suis pas vendeur de service, tu vois, je suis ostéopathe. Et parce que c'est pas dans mon intérêt. Moi, ce que je veux, c'est avoir du matos pour proposer des solutions.
Ouais, okay.
Là, c'est le cas, tu as parlé des selles, mais si tu regardes, j'ai des potences aussi. Je peux avoir des cintres, des prolongateurs. Bon, je suis pas un magasin, donc j'ai pas un stock de fou et j'ai pas 30 000 modèles, mais j'ai des alternatives et des propositions à faire. Mais voilà, d'abord, on s'occupe du réglage. Une fois que le réglage il est cohérent, on teste éventuellement différentes selles. En fonction de la largeur du bassin, la forme de la selle, tu vois, dans toute une forme, on dirait pas, mais un peu différente.
Oui, on voit c'est incurvé d'une certaine façon.
Voilà, il y en a qui sont plus larges, plus échancrés, il y en a qui sont trouées, pas trouées. Il y a un peu de tout. Je reviens sur ce que tu as dit, sur les selles hommes-femmes, c'est plus ou moins vrai quand même, tu vois. Il y a quand même une partie qui est assez marketing.
Ok.
Tu vois, il y a des selles qui sont... qui sont là, qui sont peut-être plus orientés hommes, femmes par exemple, et que j'ai déjà mis sur des hommes.
Enfin, oui, c'est ça, c'est pas...
Donc c'est un peu des fois un peu marketing.
Ouais, voilà, okay.
Ce qui compte, c'est la forme du bassin. Alors, de règle générale, la forme du bassin n'est pas la même chez l'homme et la femme, pas exactement la même. Mais tu peux avoir des hommes avec des bassins très larges et des femmes avec des bassins très étroits et l'inverse. Et du coup, tu joues un peu avec tout ça.
Ouais.
Donc, voilà.
Et du coup, pour revenir au sujet de l'analyse posturale, de manière générale, du coup, toi, tu t'es formé ça fait un an à peu près, c'est ça?
Oui, alors un peu plus. J'avais commencé en 2021. À me former ici dans la région via un organisme. J'ai commencé à essayer de mettre ça en place au cabinet, mais c'est pas forcément facile à développer déjà en termes de communication, parce que c'est pas mon métier.
Mmh. Et, mais t'as fait une page Instagram, c'est ça
déjà, plus récemment, ça.
Ouais, ok.
Mais en 2021, j'avais pas trop pas fait ça. Donc, tu vois, parce que je disais, c'est pas mon métier et j'avais pas forcément le temps. Voilà. Pouvoir tout combiner, c'est un boulot aussi. Et en 2023, enfin, j'ai continué à me former, à m'intéresser à la chose, au sujet. En 2023, j'ai décidé de me reformer, enfin, de continuer ma formation.
Avec qui t'as fait ça, du coup ?
Du coup, j'ai fait ça avec Autour du cycliste, à Métérène. Tu sais, il y a Edouard Hervé, qui est ostéopathe comme moi, qui a créé Autour du cycliste à Métérène. Je crois qu'il a créé en 2017 ou 2018, de mémoire. Et il proposait une formation. Quand j'ai vu ça, je l'ai contacté. Et du coup, il m'a formé. Il continue de me former parce qu'on a un groupe de discussion où on échange sur des cas cliniques, tu vois, on dirait.
Est-ce que vous êtes plusieurs ostéos
Ouais, voilà, on est plusieurs cliniques maintenant. Donc lui, il a toujours la clinique de Métérène. On a une clinique à Templeuve. C'est Clément, mon collègue qui est kiné, qui s'occupe de ça. Et ici, la clinique de Lille, c'est moi.
Ok.
On a aussi une autre clinique, mais plus loin, à Cognac. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Et donc, on est tous affiliés autour du cycliste.
Okay.
Qui était, pour le coup, tu vois, un bon moyen de développement. C'est pour les cyclistes du coin, ils connaissent bien Edouard. Enfin, pas bien Edouard, mais ils connaissent bien sa structure.
Ouais.
Et l'expérience qu'il a. Mm-hmm. Une certaine renommée, tu vois, dans les études posturales dans le coin. Et du coup, c'était hyper intéressant pour moi de m'approcher de lui, d'être formé. Il est vachement, vachement bien en formateur. Il m'a appris beaucoup de choses. Il continue de m'apprendre. Tu vois, j'y retourne cette semaine pour retravailler un peu avec lui, pour toujours rester à jour et continuer. Et puis voilà.
Ok. Du coup, tu proposes quoi à tes patients cyclistes? Ça consiste en quoi, du coup, une analyse posturale?
Comment ça se passe?
Alors, une analyse posturale, nous, ce qu'on propose, c'est un truc complet. Parce qu'on veut pouvoir faire justement le lien entre notre métier de soins, de soignants, de santé et l'étude posturale. D'accord ? Donc ça veut dire que dans l'étude posturale qu'on met en place, il y a une partie bilan chez le cycliste. Avant, tu vois, de regarder son vélo, avant de regarder le cycliste sur le vélo, on fait le point avec le cycliste sur ses douleurs. Un peu comme un début de consultation ostéo.
Ouais,
tu vois, tu fais le point sur la venue du patient. Sur quand est-ce qu'il y a des douleurs, qu'est-ce qui soulage ces douleurs, enfin un peu tout ce dont on a parlé. Est-ce qu'il y a des douleurs en dehors du vélo? Est-ce que c'est que lié au vélo? Enfin, tu fais tout ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire tu fais décrire la douleur au patient, pourquoi il est là, parce que des fois il n'y a pas de douleur. Hein. Donc pourquoi il est là, bilan sur le patient, à la fois pour voir si en dehors du vélo, justement, est-ce qu'il y a des aspects mécaniques, biomécaniques, ou des petites faiblesses à travailler. Avant de régler le vélo, et aussi pour après prendre des infos pour être spécifique sur son vélo. Mm-hmm. Tu vois, on veut pas juste mesurer, souvent je dis on n'est pas là juste pour mesurer la taille, la hauteur d'entrejambe, l'envergure, mettre ça dans un logiciel et régler le vélo. Tu vois, c'est un peu le principe des lunettes.
Ouais.
Ça veut dire qu'il y a un patient qui peut arriver avec la même taille que toi, la même hauteur d'entrejambe.
Il y a d'autres choses à adapter que ça.
Voilà, on ne va pas faire le même réglage parce que peut-être que lui, il peut se pencher et toucher le sol. Peut-être que toi, tu peux te retrouver à 15 cm du sol, des choses comme ça. Tu vois, peut-être qu'il a une grosse capacité d'ischio-jambier. Peut-être que toi, tu es plus fort sur les quadris. Enfin, tu vois, tu as plein de paramètres à prendre en compte que uniquement un chiffre de, ouais, de taille, d'envergure et de hauteur de jambe.
C'est pas des tableaux croisés.
Voilà, ce serait trop.
Il y a ton regard en plus qui permet d'adapter.
Voilà, c'est vraiment ça l'apport qu'on a dans nos études, c'est qu'on prend vraiment en compte la douleur. Je critique pas d'autres études où c'est plus basé sur ces chiffres-là, parce que c'est très bien, surtout quand tu commences et que tu achètes un nouveau vélo, t'as pas de repère, tu en as tous commencé par ça, par prendre sa hauteur d'entrejambe, multiplier et avoir sa hauteur de selle. Et
c'est un réglage général, quoi.
Voilà, c'est un réglage moins dans la précision. Ouais. Nous, nos patients, ils viennent soit parce qu'il y a une recherche d'optimisation de performance, soit parce qu'il y a douleur. Et à partir de là, on fait le point sur l'étude posturale. Donc voilà, partie anamnèse, partie bilan sur le cycliste, partie bilan sur le vélo, donc prise de côte, observation des réglages actuels, et après analyse du cycliste sur son vélo, depuis le réglage de cale avec le pédalage, l'observation globale, prise de mesure d'angle, etc. sur le vélo, enfin sur le cycliste sur son vélo plutôt. Analyse de tout ça, discussion, parce qu'il y a ce qu'on voit, ce qu'on mesure, ce qu'on ressent, ce qu'on observe, et les sensations du patient qui sont à prendre en compte. Enfin, je dis du patient, mais du cycliste, on va dire, par habitude. Et voilà, discussion, proposition de changement, proposition plus ou moins en fonction de des situations. Il y a des moments où tu vas avoir un truc, tu vas dire, bon, je vous conseille, voilà, à mon avis, il faut faire ceci, il faut faire cela. Des fois, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est on va faire ça, on va faire ça. Parce qu'il y a des trucs, des fois, où tu te dis, bon là, vous avez mal, mais c'est sûr, comme vous êtes.
T'as déjà vu des trucs...
Ouais, alors, enfin, c'est rien d'exceptionnel, mais quand t'as l'habitude, tu regardes, t'as l'impression que t'as des gens, des fois, ils sont assis sur leur roue arrière, ou des trucs comme ça, ou alors à l'inverse, ils sont...
beaucoup trop...
Voilà, ils touchent plus les pédales, tu vois, donc des trucs, bon, ça m'étonne pas, qu'il y ait des douleurs, ou quoi, mais c'est normal.
Vous avez pas de sel, déjà.
Je comprends. ça peut être un choix aussi, parce que ça, après. Mais ouais, donc tu vois des trucs et t'adaptes. Et après, des fois, c'est sur des personnes qui ont pas de douleur, mais qui recherchent du rendement. Donc, t'essaies de bien leur expliquer la biomécanique et quelle est la meilleure biomécanique pour être le plus efficace possible, sans que ça dévie trop vers de l'inconfort. Parce que le confort sur le vélo, ça va avec la performance. Ouais. On en parlait, tu vois, le confort et la performance, ça peut être sur quelqu'un qui fait de la vitesse, comme sur quelqu'un qui fait de la longue distance. Quelqu'un qui fait de la longue distance, s'il ne sait pas tenir la position qu'on met en place, il est plus confortable, il est plus efficace. Donc ça, un triathlète qui a la position la plus aéro possible sur ses prolongateurs, si au bout de 30 secondes, il est inconfortable et qu'il se redresse,
c'est que c'est pas...
aucun bénéfice. Ouais. D'accord ? Donc il faut toujours... trouver le meilleur.
Tu fais les réglages de prolongateur aussi, du coup
On fait tout. Okay. La plupart des études posturales, ça se fait sur vélo route, parce que c'est là où il y a le plus de contraintes souvent appliquées. Parce que c'est là où, comme un peu le principe du home trainer, où tu es le plus fixe, on va dire. Mais tu vois, ça peut être vélo route, ça peut être gravel, VTT, contre la montre. J'ai eu des VTC aussi, tu vois, avec Vélotaf, c'est important aussi.
Vélil.
Il
y en a un, ben là,
je m'en occupe de temps en temps. Malheureusement, je ne suis pas rémunéré pour ça.
Il y a toute une borne devant le cabinet, en plus. Tu as du travail si tu t'ennuies.
Ouais. Mais alors, du coup, pour récapituler un petit peu, quand est-ce qu'il y a besoin de faire une étude posturale ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? Quand est-ce que c'est bien de venir te voir ?
Ouais, c'est finalement assez simple, cette question. Oui, c'est pour tout le monde. À partir du moment où tu as soit une recherche d'optimisation, donc de meilleur rendement, de gain de performance, soit des douleurs.
Oui.
Tu vois, quelqu'un qui est bien sur son vélo, qui n'a pas de douleur, qui roule tranquille à son rythme, qui fait ses trucs tranquilles, qui ne cherche pas à devenir plus fort, plus rapide, plus longtemps, machin, pourquoi changer quelque chose ?
Oui, c'est
ça, ouais. C'est un peu le principe. Quelqu'un qui se sent bien sur son vélo, mais qui a des douleurs, et que ça traîne, tu vois, malgré une prise en charge, est-ce que, même question, est-ce que c'est en dehors du vélo et tout, là, tu peux faire le point.
Ouais, ok.
Quelqu'un qui n'a pas de douleur, mais qui se dit, j'aimerais bien vérifier si je suis le plus optimal, si j'ai le meilleur rendement, si j'appuie bien sur les pédales, si je ne peux pas gagner un peu en efficacité, là, tu peux faire une étude aussi.
Ouais, ok.
Donc, c'est un peu les deux critères. gain de recherche de performance, douleur. Si tu en as un sur les deux, tu peux chercher à faire une étude. Après, tu as des personnes qui arrivent et qui se sentent bien sur leur vélo, qui me disent, voilà, moi je fais du vélo depuis toujours, je me sens bien, je me sens assez efficace, mais je cherche des repères. Mmh. Voilà, ils disent, je suis bien, mais voilà, c'est pour vérifier que je suis vraiment bien, en fait. Donc ça va un peu avec le côté gain de performance.
Ouais.
Mais sans trop le dire, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais ça joue. Voilà, c'est deux critères, douleur et performance. Okay. Et là, de toute façon, l'un va avec l'autre. Avec ce que je disais, le confort sur le vélo qui te fait être performant.
Du coup, quand on parlait des conseils que tu pouvais donner aux cyclistes, ça t'arrive du coup d'orienter tes patients qui peuvent venir te voir en disant j'ai telle douleur, et là tu dis faudrait peut-être amener le vélo pour qu'on voit, c'est une de tes solutions.
D'abord des personnes que je verrai en consultation en ostéo, ça peut être le cas. Sur une discussion, comme c'est le cas, tu vois, j'ai été formé aussi sur les blessures en course à pied. Ça se fait plus facilement parce qu'on discute. Mais effectivement, des personnes qui viennent, on fait le point sur des douleurs. Et malgré une prise en charge, que ce soit ostéo, kiné, autre chose, podo, notre boulot, quoi. Des douleurs qui persistent, tu te dis, ok, c'est peut-être vraiment lié au réglage. Dans ce cas, ce serait peut-être bien qu'on fasse un point sur une étude posturale.
Mmh. Oui, c'est hyper intéressant comme ça te permet d'avoir une prise en charge vachement complète, en fait.
C'est pour ça que tu vois, c'est ce que je disais au début dans la petite présentation là, où cette facette d'étude posturale, elle est vraiment pour moi maintenant inclue dans mon boulot, quoi.
Ouais.
C'est pas une entité différente. Alors c'est un aspect plutôt, c'est un outil en plus dans ma prise en charge, donc ici particulièrement du cycliste, spécifique au cycliste.
Et donc on retrouve tout ça c'est autour du cycliste, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, autour du cycliste, on a un site, c'est autourducycliste.fr, hein, où tu as toutes les infos, tu retrouves les cliniques dont j'ai parlé, toute une description, c'est un site bien détaillé. On est aussi sur Instagram, on a trois pages Instagram pour chaque clinique.
Okay.
Donc autour du cycliste Méterraine, à côté de Bailleul, autour du cycliste Templeuve et autour du cycliste Lille.
Okay.
On essaie régulièrement de poster des petits trucs.
Ouais, j'ai vu que tu faisais des trucs.
Quand on peut, quoi. Parce que et on disais, c'est du boulot.
On peut prendre les rendez-vous sur Doctolib
On peut prendre les rendez-vous sur Internet directement. Moi, je suis sur Doctolib, donc j'utilise cette plateforme. C'est le cas de Clément à Templeuve aussi. Edouard, lui, est sur une autre plateforme, mais à partir du site, tu peux retrouver sa clinique. Moi, sur la clinique de Lille, sur mon profil classique, tu as le choix entre déguidé, ostéopathie, études posturales. Tu choisis.
Ah, Maxence Lecointe.
Voilà, Maxence Lecointe.
Très bien. Bah, top. Kev, tu as d'autres questions sur l'analyse posturale ?
Mais non, j'allais dire, on arrive sans doute à la fin de ce podcast. On a pour habitude, Maxence, de toujours terminer avec une petite recommandation que tu aurais sur le monde du vélo, etc. Ça peut être un film, un livre, une page Instagram. Enfin, pas la tienne non plus.
c'est déjà fait, c'est bon.
C'est déjà fait, c'est bon.
C'est de l'autopromo.
Mais bien sûr, mais on va la faire après. Enfin, là, pour le coup, tu l'as fait et c'est très bien. Mais est-ce que tu as une recommandation à faire autour du vélo ?
Ouais, j'en aurais plusieurs. Je vais pas parler de Dostrad parce que j'ai l'impression que quelqu'un va s'en charger. mais en plus ils sont juste à côté du cabinet parce qu'on est dans le Vieux-Lille et ils sont à deux rues du cabinet. J'ai une petite reco ou un petit clin d'œil, c'est plutôt pour Lille Triathlon. Je suis licencié depuis 4 ans. À Lille Triathlon, et c'est d'actualité là parce que la semaine dernière, il y a 10 jours plutôt, il y avait le Run and Bike de Lille Triathlon, c'est la troisième édition qui avait lieu il y a 2 semaines.
Donc pour situer, c'était début mi-février, quoi.
Ouais, parce voilà, que, là on est le...
On ne sait jamais quand les épisodes sortent.
Ouais, voilà, j'ai plus la date, mais c'était mi-février, on va dire. Sous plusieurs, il y avait plusieurs formats, tu vois, il y avait un 12 km, un 6 km et une course enfant. Donc run and bike classique en duo dans la citadelle, de Lille. Donc c'était un chouette moment qu'on a passé sous la pluie et dans le vent et dans la boue. Donc, c'est tout ce qu'on aime.
Ah, c'était dans les chemins du coup
Ah, c'est à la Citadelle et t'as des petits passages où tu passais un peu dans l'herbe, mais du coup, c'était de la boue.
Ok. Donc,
voilà, c'était en VTT. Hein. Et donc voilà, petit clin d'œil à Lille Triathlon. Et l'autre co, petit clin d'œil que je voulais faire, c'était à Rémy de l'atelier Babé, qui est un atelier de réparation qui a ouvert il y a un an, donc à peu près. Donc on va dire courant début 2023. Et donc, qui est un gars super sympa, qui peut s'occuper de votre vélo, quel que soit le vélo. Il aime bien les vélos de route, mais il a énormément de vélos TAF, de vélos hollandais, un peu tout, de VTT. Et il adore bichonner ses vélos. Donc pareil, vous le retrouvez sur Instagram. C'est à Lille, avenue de Dunkerque. J'ai plus l'adresse comme ça en tête. Atelier Babé, B-A-B-E-T. Vous retrouverez ça facilement.
On mettra dans la description.
Ouais, on la mettra dans la description du podcast.
Suivez-nous sur Instagram, I like to ride my bike. Lille, truc comme ça.
Ouais.
Et sinon, sur le site internet, I like to ride my bike.com, où on met les podcasts déjà, et puis aussi voilà, quelques traces GPX dont on parle dans le podcast. Et puis voilà, il y a tous nos liens, etc.
Ouais, je vais t'en envoyer d'ailleurs des traces en parlant de ça. des petites boucles si vous voulez vous lancer dans les routes avoisinant Lille.
Et puis n'hésitez pas à nous en partager aussi si vous en avez. Merci beaucoup Maxence d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Et puis bah, on mettra ta page Instagram dans la description. Et puis bah, bonne continuation.
Bah, merci les gars, vous aussi.
À plus tard. Salut tout le monde.
Salut.
Bye.